Entrons dans notre appel, voilà. La semaine dernière, je vous ai dit que les saints étaient appelés en vue du ministère. Je fais un petit rappel pour les absents de la semaine dernière, je ne vise personne. Hein. Mais en fait, vous êtes appelés, nous sommes tous appelés en vue de servir Dieu et en vue de faire des nations des disciples. Et vous vous souvenez que je vous avais dit que le système humain avait biaisé ce que Dieu avait prévu dès le commencement, à savoir lorsque l'Église a été créée le jour de la Pentecôte, il y a eu vraiment quelque chose de fort. C'est que tous les chrétiens qui avaient été dispersés témoignaient de Jésus et des gens par centaines, par milliers se convertissaient. Ça a été la période la plus prospère de l'Église, il faut le savoir. Tellement c'était puissant ce qui était en train de se passer à partir de 70 disciples dans la chambre haute. Vous imaginez des milliers de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette puissance qui a été libérée sur les chrétiens de l'époque. Nous bénéficions de cela et nous voulons retourner vers ça. Et le système a biaisé parce qu'on a fait à un moment donné, on a fabriqué en créant un clergé, en créant des professionnels de la foi, en créant des pasteurs, des anciens, des évêques, enfin peu importe, on a créé des gens qui détenaient la vérité, qui détenaient, allez, l'onction, l'autorité. Et du coup, on a amené ces gens-là vers ces pasteurs ou vers ces ministères. Je vous rappelle que la liste des ministères, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et que on pense que c'est à travers eux que le service doit se faire. Or, c'est pas du tout ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Il est dit que ces ministères sont chargés de la part de Dieu de former les chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que il y a un appel pas de ministre, de ministère, de serviteur sur tout les croyants qui viennent à Jésus. Et faites attention parce que si on ne revient pas à cela, on va fonctionner dans un système de consommation. Les chrétiens vont devenir des consommateurs et puis il va y avoir les professionnels et les consommateurs. C'est pas de la grande distribution l'Église. J'ai rien contre la grande distribution. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc c'est important que chacun puisse entrer dans son appel. Et je voudrais vraiment vous inviter à entrer dans votre appel ce matin. Je trouve cette image très belle, c'est Jésus qui prend un homme, ça peut être une femme aussi, et qui est en train de dire, viens, je vais t'envoyer maintenant. J'aime bien cette image. Donc le Seigneur, ça je l'ai passé, nous sommes choisis, vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes appelé à être formé, mandaté pour être envoyé. Et je vous donnais l'exemple parfait qui est l'exemple de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'au départ, lui, il s'imaginait jamais devenir le Jérémie qu'on connaît nous. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui parle à Jérémie là, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors Jérémie répond, vous imaginez, le jeune gars, hein, le Seigneur vient le voir et lui dit, avant même que tu naisses, je t'avais consacré prophète des nations. Mais lui, il se regarde tous les matins devant la glace, il est encore tout genou, et il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler moi. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Là, on va voir, c'est très intéressant par la suite. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais délivrer de quoi? Parce qu'on le sait, après on connaît sa vie, hein. Ça n'a pas été une vie facile, hein. Puis l'Éternel étendit sa main. Il étend sa main. Il touche la bouche de Jérémie. Et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. D'ailleurs, vous verrez que pour bâtir et planter, il faut d'abord arracher, abattre et ruiner. Si vous voulez quelque chose entrer dans l'appel que Dieu a pour vous, il va falloir casser des choses. Ça va être la partie moins sympa du message, vous allez voir. Deux types de réactions face à l'appel de Dieu. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu les deux. Moi je suis polyvalent dans le domaine. Il y a des fois dans ma vie, j'ai eu des difficultés de prendre conscience que j'étais digne de me mettre au service de Dieu. Qui a déjà eu ce sentiment ici ? Il y a des petites mains qui se lèvent discrètement. Et là, Dieu lui répond, il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Vous connaissez un grand homme, un grand serviteur de l'Éternel, Moïse, qui a répondu exactement la même chose. Et puis, le deuxième, c'est se jeter dans le service. Ça, c'est la deuxième attitude, deuxième réaction face à l'appel, sans considérer que notre cœur doit être travaillé, sans prendre conscience du sacrifice à consentir. Et vous savez, il y a un homme, une fois, qui a dit à Jésus, « J'irai partout où tu iras. » Le gars, il est à fond. Hein. Jésus, vous savez ce qu'il a répondu ? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est fort ce qu'il est en train de répondre, Jésus. Il dit, tu veux me suivre, mon gars ? Prépare-toi à être pire qu'un renard ou qu'un oiseau. Prépare-toi à sacrifier le confort que tu as aujourd'hui pour me servir et me suivre. Vous savez, donc, des fois, on a deux types de réactions comme ça. À la fois, on a des difficultés d'être, on n'arrive pas à prendre conscience qu'on est digne de servir le Seigneur. C'est lui qui nous rend digne. Et puis d'autres qui se, ils reçoivent un appel, ils disent, oh, mais j'y vais tout de suite. Et, mais le Seigneur dit, attention là, t'as des petites choses à faire avant, mon gars, ou ma fille. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire ce matin. C'est qu'il y a bien une chose que Dieu que nous fassions lorsque nous allons et nous suivons et que nous voulons le servir, il dit « Travaille ton caractère ». Ce n'est pas parce que tu as un appel. D'abord, qui est conscient de l'appel de Dieu sur sa vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui pensent avoir reçu un appel de Dieu ? Oh, des petites mains aussi qui se lèvent. N'ayez pas peur. Moi, j'ai pas peur de dire que j'ai un appel de Dieu sur ma vie parce que nous sommes tous appelés. Alors, forcément, tu sais pas encore véritablement ce à quoi Dieu t'appelle, mais il y a une chose il faut que tu saches. Dieu t'a appelé. Pour ceux qui sont pas convaincus, vous écoutez le message de la semaine dernière. Je reviens pas, hein. Je risque d'être trop long sinon. Ce n'est pas parce que tu as un appel que vous êtes prêt à accomplir ce que Dieu a planifié pour vous. Et je me souviens, j'étais jeune converti, nous partions dans une pastorale à Louveteau. C'est Louveteau, ouais, en Normandie. Et il y avait deux pasteurs, j'étais bien entouré, hein, il y avait une onction là. Deux pasteurs et un prophète à côté de moi derrière. Ce prophète s'appelait André Wilkinson. Et je me souviens qu'il m'avait dit, alors moi j'ai pas saisi le sens de cette prophétie. J'étais tout jeune homme, puis je dis, oh là là, je suis avec des grands hommes, etc. J'étais impressionné, moi le petit Bruno. Et puis à un moment donné, je vois André Wilkinson se mettre à pleurer en me regardant. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai, c'est surprenant. Il me dit, Bruno, je vois un tapis. Un tapis qui est un métier à tisser, les tapis, vous voyez. Et le tapis qui en sort, Dieu dit, ce tapis, je veux qu'il soit beau. Il dit, je pleure parce que tu vas souffrir. Je pleure parce que Dieu, qu'à la sortie de ce tapis, il y ait une belle chose qui en sorte. Parce que je veux que ça serve à ma gloire. Et il se met à pleurer encore plus fort. Il me dit, ça va être dur, long et difficile pour toi. Ça donne envie de servir le Seigneur, hein. Et cette prophétie s'est accomplie. Elle s'accomplit encore aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais Je savais pourquoi, parce que je savais au fond de mon cœur que Dieu m'appelait. Je le savais le jour de mon baptême, je le savais. Le jour où je me suis engagé avec Jésus, je le savais que Dieu m'appelait à le servir. Et ce que je savais aussi, c'est que j'avais encore pas mal de choses à travailler en moi et le laisser travailler mon caractère. Et je pense que nous avons tous besoin de beaucoup de formation dans le domaine du caractère. Peut-être pas vous, hein. Je vais pas vous lancer la pierre. Quoique j'en vois quelques-uns. Non, je plaisante. Parce que parfois, Pourquoi je vous ai mis cette photo? Parce que parfois, il y a en nous le petit enfant et le lion. Voilà. Alors, pour nous préparer, le Seigneur aussi utilise souvent des chemins qui ne sont pas ce que nous voudrions. Et pendant toutes ces années, là maintenant que je raconte ma vie, on voit que je vieillis, hein. Je radote. Parce que... Voilà. Pour nous préparer, le Seigneur parfois utilise souvent des chemins que nous ne voudrions pas. Franchement, le jour où j'ai reçu cette parole prophétique, ça m'a pas fait trop plaisir. Et pendant ces années, j'ai vu des amis, des gars qui se sont convertis en même temps que moi, et je savais qu'ils avaient aussi un appel, et je les voyais, ils devenaient pasteurs. J'ai vu des personnes qu'on a formées au baptême devenir pasteurs avant nous, recevoir l'imposition des mains avant nous. Ça a fait mal au fond de moi. Parce que je savais que je devais encore mourir à moi-même. Et parfois, le Seigneur utilise, vous savez, des choses difficiles pour nous préparer. Et ça, c'est la partie qui va pas vous faire plaisir. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Afin, écoutez bien ceci, afin que personne puisse faire le fier. J'aime bien cette version-là, fier devant Dieu. Alors, on va prendre l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. Moïse, il est allé dans un lieu de faiblesse et d'humilité. Pourquoi ? Il est allé dans le désert. Dieu l'a conduit dans le désert. Si on résume la vie de Moïse, mais c'est vraiment un court résumé que vous me pardonnerez. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert à faire le berger et 40 ans à conduire le peuple jusqu'à la porte de la terre promise. 40 ans, ça veut dire que Dieu, quand il conduit Moïse à l'âge de 40 ans dans le désert, cet homme a 40 ans. On dit qu'en général, les hommes à 40 ans, bon, c'est vrai que nous, les hommes, on a du temps, on met du temps à devenir mature par rapport aux dames. Je dois le dire. On est encore gamin. Même moi, souvent, ma femme me dit que je suis un peu gamin sur les bords. C'est vrai. Je l'avoue. Néanmoins, Dieu a choisi le désert pour désarçonner l'Égypte dans Moïse. Alors vous allez me dire, ça fait mal le désert. Et c'est long le désert. Mais c'est bon. Et vous savez, je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il peut avoir confiance. Et je crois que à la fois David, parce que je vais en parler après, mais à la fois Moïse avait besoin de l'expérience du désert, parce que l'expérience du désert, elle est destinée à travailler mon caractère, à forger mon caractère, à former mon caractère, pas à la formation du don. Beaucoup de personnes veulent exercer les dons. Il y a un petit groupe sur les dons spirituels, c'est très bien. Mais mes frères et mes sœurs, cherchez à grandir dans les dons, mais surtout cherchez à grandir dans votre caractère. Laissez Christ se former en vous. J'ai vu tant de personnes exercer les dons et ne pas être forgées, formées en Christ. Et du coup, ce qui sortait ne reflétait pas ce que Dieu voulait. Et je pense que Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il veut il peut faire confiance. Et regardez, dans Actes, il est écrit, concernant David, il a rejeté Saül. Pourquoi Saül? Parce que Saül n'avait pas travaillé son caractère. Le gros problème de Saül, je l'ai déjà dit, c'est qu'il avait la crainte des hommes. C'est qu'il avait un besoin de reconnaissance aussi. Et son besoin de reconnaissance le poussait à tout prix à vouloir faire plaisir aux hommes. Je vous le confesse, je suis un Saül en puissance. Combien de fois j'ai agi, et j'ai mal agi, par peur de ne pas être aimé des autres. Eh ouais, vous pouvez prier pour moi. Et je prierai pour vous aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça. Paul, Dieu a rejeté Saül, et il a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, et regardez ce que Dieu dit de David. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Et souvent on cite ce passage et on s'arrête là. Un homme selon mon cœur. Et regardez qui accomplira toutes mes volontés. Tu vas être un homme selon le cœur de Dieu, tu vas être une femme selon le cœur de Dieu. Il va falloir apprendre à accomplir toutes les volontés de Dieu. Et vous allez le voir après, ça va être j'espère que ça va être intéressant, que ça va vous intéresser et surtout percuter votre cœur. Remarquez comment Dieu définit un homme selon son cœur, un disciple qui fera tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors on va commencer par travailler notre caractère. Alors vous allez me dire, je pensais que Bruno allait me parler comment entrer dans l'appel de Dieu, etc. Il allait dire quel appel j'ai, etc. Non, c'est faux. Parce que c'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu dit, travaille ton caractère. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié. C'est Paul qui parle aux anciens. La responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Tu souhaites conduire? Tu souhaites... Je ne parle pas uniquement des responsables, bien sûr, forcément les responsables. Anciens, ministères, responsables dans l'Église. On doit faire comme ça. Mais vous savez, parfois, il y a des personnes qui veulent vous conduire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des chrétiens qui détiennent toute la vérité. Il y a des gens qui me disent, attends, je vais t'expliquer comment ça marche, garçon. Non, mais parfois, je l'ai dit à Marie, des fois, je raccroche avec la personne avec qui je discute. J'ai l'impression d'être un lapin de 6 semaines. Quoi. Ça, vous connaissez l'expression. Hein. Laisse, je vais t'expliquer comment faire. Et regardez, tu souhaites conduire, tu souhaites conseiller les autres, tu souhaites leur apporter quelque chose, ta vérité, parce que tu penses être la vérité. Commence par veiller sur toi-même. Tu souhaites appuyer, être un équipier pour quelqu'un d'autre, commence par travailler ton caractère. C'est le point de départ. Geoffrey, ce matin, il fait un triathlon. Il a pas le droit de partir une fois. Enfin, je sais que ma petite fille a fait ça une fois, mais il a pas le droit de partir après que la natation ait lieu. Le départ du triathlon, c'est je plonge dans l'eau. Et quand on plonge dans l'eau, c'est en gros travaille ton caractère, mon enfant. Il y a des choses à faire en toi. Alors, les facteurs qui nous conduisent vers notre appel maintenant. 1, il y a un acte fondateur. C'est-à-dire que il y a quelque chose que Dieu dit et qui ne dépend pas de nous. Regardez comment il parle. Avant de te former dans le ventre de ta mère, est-ce que Jérémie l'a choisi ça? En fait, tu choisis pas ton appel. Tu ne peux pas dire je serai ceci, je serai cela, ou je ferai ceci, ou je ferai cela. L'attitude que tu dois avoir, c'est d'aller vers le Père, vers ton Dieu, et dire « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» C'est-à-dire que quand à un moment donné, le Seigneur t'appelle, il te dit « J'ai besoin de quelqu'un, fais, me voici, envoie-moi, Seigneur. » C'est ce que fait Ésaïe lorsqu'il voit la gloire de Dieu. « Qui enverrai-je » dit le Seigneur. Ésaïe dit « Ouais, mais attends, on va signer un contrat d'abord. Tu vas me dire ce que je vais faire, ce qui va se passer, tout à l'avance. Non, non. Ésaïe répond, tu as besoin, Seigneur, me voici. Tu veux rentrer dans l'appel ? Réponds à l'appel. Ne cherche pas quel est cet appel. C'est ton attitude de cœur qui compte. Et l'acte fondateur de Dieu, il est important. Parce que je peux vous dire, tous autant que nous sommes, tous autant que vous êtes et que je suis, il y a un appel. Avant de que je sois formé, que vous soyez formé dans le ventre de votre mère, le Seigneur nous connaissait. Et le Seigneur avait déjà préparé des œuvres d'avance pour que tu les accomplisses. Et ça ne dépend pas de toi. Un jour, je crois que j'ai déjà raconté, mais tant pis, j'ai le droit de radoter maintenant. À partir d'une certaine décennie, on a le droit. On est excusé. Un jour, je me souviens, on avait un cours d'homélétique avec un pasteur qui s'est de Tourcoing, qui s'appelle Pierre Lanois. Et puis, il me dit, quel est votre appel? Moi, j'y vais franco, hein. Je dis, voilà, je ferai ça pour Dieu. Mais j'avais raison, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. La note du devoir, parce que c'était noté, me dit, il a dit, Bruno, la première chose que tu dois faire, avant de vouloir entrer dans tout ça, entre dans une véritable attitude d'humilité. Ça m'a cassé. J'ai pas une bonne note en plus. Mais on ne pourra pas enlever ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. C'est sûr, ça n'a pas été une parole encouragement, hein. Mais j'en avais besoin aussi. Vous voyez, parfois il y a des paroles dures qui nous sont envoyées, mais dont on a besoin d'entendre. Mais ça n'a rien enlevé. Est-ce que ça a empêché le Seigneur de me faire entrer dans les œuvres? D'avance, c'est pas vrai. C'est pas ce que les hommes te disent qui est important. C'est ce que tu prends de ce que les hommes te disent. Ce qui est important, c'est pas ce que les hommes te disent. Ce qui est important, c'est ce que tu retiens de ce qu'ils t'ont dit et que tu gardes sur toi. Et souvent, mes frères, mes sœurs, nous sommes liés. Parce que nous sommes laissés liés par les paroles des hommes, par des enseignements d'hommes qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et le petit Jérémie, il a déjà reçu un enseignement. Dans sa culture, dans ce qu'il est, il a dit, « Ah Seigneur, moi je peux pas. Tu comprends Seigneur, je suis jeune, je ne sais pas parler. Tu vas m'envoyer contre les chefs religieux face aux chefs religieux. Mais moi, je serais pas capable. Est-ce que vous comprenez ça? Et souvent, on a besoin d'entendre ce que Dieu nous dit. Et souvent, vous avez entendu, je ne pourrai pas servir Dieu parce qu'on vous a dit. Et ça va être le temps de réécouter l'acte fondateur de Dieu. Je t'ai appelé en vue de me servir. J'espère que j'ai balancé, là, que j'ai détruit une première forteresse. La deuxième, alors là, ça va être moins facile à entendre. C'est la croissance personnelle voulue et organisée par le Seigneur, par le serviteur. Vous savez, ce que Dieu attend de nous, c'est un engagement radical d'abandon pour passer à une vie qui compte pour Dieu. Vous voulez servir Dieu? Ben, que le Seigneur devienne votre priorité. Vous voulez servir le Seigneur est entré dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, entré pleinement dans cela. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu, vous savez, « Oh Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer ceci. Laisse-moi d'abord faire cela. Laisse-moi d'abord faire cela. » Si tu attends de faire que des choses soient en règle dans ta vie pour y aller, tu n'y rentreras jamais. Quand Jésus appelle, lève-toi et vas-y. Jérémie aurait pu continuer à se cacher derrière sa jeunesse. Il aurait pu continuer à dire, oh ouais, mais Seigneur, non, t'as beau me parler, Seigneur. Mais moi, attends une paire d'années, quoi. Tu vois, tu reviens dans 15 ans. Je serai prêt. Ou alors, tu sais, attends que j'ai fait des études de, après les plus grands chefs religieux de mon pays. J'aurai un peu plus de connaissances. Non. Jérémie, il a abdiqué. Il a dit, ok, Seigneur, j'y vais. Et souvent, nous croyons que l'autorité pour accomplir les œuvres liées à notre appel est donnée par le Seigneur lorsque l'acte fondateur de Dieu est accompli. Eh bien, je vais vous dire que non, pas forcément. Certes, il met comme une semence d'autorité en nous. Quand Dieu dit à Jérémie, « Je te déclare prophète sur les nations », il y a une onction, une autorité qui lui est donnée. Mais pour que cette autorité puisse pleinement s'exprimer, mes frères et mes sœurs, il va falloir faire autre chose. Et c'est, un, passer par le test d'intégrité. Alors, je vais vous donner l'exemple de Joseph. Joseph, c'était quand même, appel clair. Vous vous souvenez de la vision qu'il voit? Il manque un peu de sagesse. Et peut-être d'humilité, je sais pas, je connais pas son cœur à ce moment-là. En tout cas, il manque de sagesse, il va raconter tout ça, quoi. Il dit, mon père, ma mère, mes frères vont se prosterner à mes pieds. Forcément, famille recomposée, si je puis dire, de l'époque. Jalousie entre frères, etc. Il finit dans la citerne, ouais, dans le trou. Moi, j'appelle ça le trou. On l'abandonne, laissé pour mort, il est emmené par les Ismaélites, paf. Et puis, à un moment donné, il va se retrouver chez Potiphar. Vous avez entendu parler de cette histoire, hein. Et cet homme voit vraiment chez lui quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, Potiphar reconnaissait déjà une onction et une autorité chez Joseph. Que Dieu reconnaissait, mais vous allez voir, pour passer à l'étape supérieure, il va lui arriver quelque chose. Qu'arrive-t-il? La belle femme de Potiphar, elle lui fait du gringue, comme on dit. Elle vient le draguer. Et elle vient dire, viens, couche avec moi, quoi. T'es beau gosse, ah, je t'aime beaucoup, etc. Et puis, elle lui fait des vous voyez, hein. Elle met sa belle robe, etc. Je le fais bien? Bon. Et là, la réponse de Joseph, je la trouve très belle. Un, il dit, mon maître m'a tout donné. Je suis celui qui est en dessous du maître dans cette maison. Comment pourrais-je détruire la confiance? Voilà, en gros, je résume ce qu'il dit. Hein. Comment pourrais-je détruire la confiance que mon maître m'a donnée? C'est-à-dire que tu veux grandir dans ton appel, tu veux vraiment pleinement y rentrer, tu passeras automatiquement par le test de l'intégrité. Et le test de l'intégrité passe automatiquement et souvent par l'obéissance et la soumission à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et ça, les gens ne comprennent pas ça souvent. Je vous ai déjà dit qu'une fois, quand j'étais à Mont-Saint-Barœul et puis que j'avais reçu l'appel pour de la part du Seigneur pour aller à Marc-en-Barœul, pour venir donc à Bethsalel, il y a le pasteur qui n'était pas trop d'accord que je m'en aille. Et puis il me dit ça, moi, j'ai pleuré, hein, toutes les larmes de mon corps, hein, je peux vous dire, j'étais déçu qu'ils me disent non, comme ça, catégorique. Alors je monte dans ma chambre, un peu en colère, je l'avoue. Je dis, Seigneur, j'obéirai plutôt à toi qu'aux hommes. Je le déclare que demain je l'appelle et je lui dis que je m'en vais. Et là, le Saint-Esprit me répond, tu vas obéir, tu vas montrer ta capacité d'être intègre, fidèle à quelqu'un. Parce que le jour, si tu ne fais pas cela, ne demande jamais à quelqu'un d'être intègre avec toi. C'est-à-dire que si tu veux servir le Seigneur, à un moment donné, tu vas passer par ce test-là, automatiquement. Et je peux vous dire que tout... Mes amis à qui je parle de l'appel me disent tous qu'à un moment donné, ils ont été. Potiphar était-il un maître parfait? Je ne crois pas. C'était un Égyptien, culture égyptienne. Est-ce que c'était un gars bon? On ne sait pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, Joseph est resté intègre. Et regardez, Joseph, il détermine son intégrité, pas uniquement en fonction de ce qu'est Potiphar, mais il dit, non seulement je vais détruire la confiance que mon maître me fait, mais en plus, il est hors de question que je ne déçoive le Seigneur, mon Dieu. Vous voyez, l'intégrité vis-à-vis de quelqu'un, pour Joseph, elle est comparée à l'intégrité d'un homme envers son Dieu. C'est fort. C'est fort. Hein. Et puis le deuxième test, c'est le test de l'obéissance. Et surtout quand ça n'a aucun sens et qu'elle coûte cher. Alors là, je prends l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Au début du chapitre 22, Dieu dit qu'il mit à l'épreuve Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham avait besoin de grandir et il avait besoin d'être testé dans son obéissance. Pourquoi ? Pour devenir le père d'une multitude, pour devenir l'homme, notre père dans la foi, il fallait que cet homme passe aussi par le test de l'obéissance. Dieu le met à l'épreuve, lui dit, tu prends ton fils, tu montes sur la montagne et tu vas le sacrifier. Un beau petit holocauste. Bon, vous connaissez l'histoire. Abraham obéit, monte, là, l'ange l'arrête, et parce qu'il a fait cela, parce que Abraham a fait quelque chose, un, qui lui coûtait très cher. Et vous savez, ne me dites pas que c'est facile d'obéir quand ça ne me coûte rien. Et Dieu m'a souvent demandé, et souvent à vous aussi, demandé d'obéir quand ça vous coûtait quelque chose. Parce que le véritable test de l'obéissance, c'est quand ça vous coûte, mes frères, mes sœurs. C'est trop facile de dire j'obéis, et que le jour où le Seigneur vous demande de payer quelque chose qui vous coûte, et que vous ne faites pas. On ne reconnaît pas quelqu'un qui obéit lorsque ça lui coûte rien. La deuxième des choses, c'est, est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, Abraham ait compris ce que Dieu voulait faire? Il n'est pas dit. Dieu ne lui explique pas. Il dit, prends ton fils, tu le sacrifies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'obéissance, si je veux tester mon obéissance, Dieu me demande, j'ai pas besoin de comprendre. Et souvent, j'entends cela. Et souvent, j'ai été comme ça vis-à-vis du Seigneur. Je voulais tout connaître à l'avance. Et en plus, je voulais tout comprendre. Et pourquoi tu fais ça, Seigneur? Et vous savez, le Seigneur teste son disciple dans l'obéissance, même et surtout lorsqu'il ne comprend pas. Et je le dis, l'obéissance ne dépend pas toujours de la compréhension, de ce que tu sais à l'avance des choses. Parce que l'obéissance, tu dois forcément la calquer à la confiance dans ce que le Seigneur te demande, la foi. Tu ne peux pas dissocier l'obéissance et la foi. Et lorsque j'obéis, je fais confiance, même si je ne comprends pas. Et parfois, je vous le dis, le Seigneur m'a demandé de faire des choses que je n'ai pas faites parce que je voulais savoir pourquoi. Et qui d'entre nous n'a jamais fait cela? Donc tu veux valider ton cœur de serviteur. Passe et accepte le test de l'intégrité. Et accepte le test de l'obéissance. Voilà, j'ai été court. Pour une fois. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous comprenez maintenant que vous avez un appel? Est-ce que je vous ai convaincu de ça? Enfin, c'est surtout le Saint-Esprit qui doit vous convaincre. Est-ce que vous avez compris que Dieu vous appelait à le servir? Est-ce que vous avez compris que vous ne devez pas regarder à ce que vous êtes, jeune, vieux, moins jeune, demi-jeune? Ne regardez pas à cela. Regardez à ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Je vous invite dans les semaines qui viennent à prendre le temps de l'écouter, à prendre le temps dans la prière, à prendre le temps de dire, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? J'ai une sœur qui s'appelait Marie-Thérèse qui est décédée aujourd'hui. Son mari n'était pas converti. C'était une femme. C'était un peu ma maman. Ouais, c'était devenu notre maman à l'église. C'était la maman de tout le monde. Et Marie-Thérèse, elle aimait bien ce chant. À chaque fois que je chante ce chant, c'est mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Et Marie-Thérèse, notre petite maman, tous les matins, elle se levait. Une fois, on avait un petit groupe, on avait un temps de prière à la maison. Puis elle a dit ceci, en pleurant, « Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec moi. » Et je lui ai simplement dit, « Mais Marie-Thérèse, est-ce que tu te rends compte que tu es notre maman ?» Quand elle voyait qu'on avait de la peine, elle venait nous voir à la fin du culte. Et le nombre de fois où Marie-Thérèse nous prenait dans ses bras. Je me souviens que il y avait des moments dans notre vie où on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Marie-Thérèse venait, elle dit « Je vais prier pour vous ». Et tous les matins, Marie-Thérèse se levait et elle disait « Seigneur, conduis-moi et montre-moi ce que je dois faire aujourd'hui ». Et tous les soirs, elle avait le même sentiment de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Et pourtant, si vous saviez combien elle pouvait conduire les gens, il y a des personnes qui n'avaient pas de quoi aller faire leurs courses. Il n'y avait pas le drive ou il n'y avait pas de livraison à domicile à l'époque. Eh bien, elle allait faire les courses avec les gens. Il y avait des gens malades, elle allait les soigner. C'était une femme qui obéissait et qui avait compris une chose essentielle. Elle n'avait peut-être pas compris, mis un mot, un nom derrière son appel. Mais elle avait écrit sur son cœur, la loi de Dieu. Elle était une vraie disciple. Et cette femme, cette maman spirituelle, a été pour moi et Maryse un exemple. Et j'espère que je la verrai au ciel et que je pourrai la remercier. Et je suis sûr que le Seigneur, à un moment donné, le jour où elle est décédée, lui a dit « Bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton être. » Est-ce que vous voulez servir le Seigneur comme ça ? Travaillez votre caractère. N'ayez pas peur du désert. Et tant pis si ça dure longtemps. Je veux dire, et même tant mieux. Parce que plus le Seigneur nous travaille dans les temps de difficiles, mieux c'est. Je sais, ça n'encourage pas ce que je dis, mais c'est une réalité. Joseph, avant d'être ce premier ministre en Égypte, regardez par où il est passé. Moïse, regardez par où il est passé. Et regardez tous ces hommes. Paul, ne croyez pas qu'il soit passé par tout de suite appelé sur le chemin de Damas et ministère. C'est pas vrai. 12 années, il a fallu que le Seigneur démonte Paul pour en faire un disciple. Ouais. C'est la réalité du royaume. C'est la réalité du royaume. Mais à la sortie, vous avez des hommes qui ont marqué l'histoire, dont on entend encore aujourd'hui les écrits, les prières, l'intercession. Et par leur vie, ils enseignent encore aujourd'hui. Je ne sais pas quand le Seigneur reviendra, mais tant que le Seigneur ne sera pas entré, on continuera de lire l'histoire de Moïse, de lire l'histoire de Joseph, de ses pères dans la foi. Qui ont bâti des choses, qui ont fait des choses, qui ont répondu à leur appel, qui se sont laissés façonner par le Seigneur. Oh oui, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Mais c'est des hommes en qui nous pouvons suivre l'exemple. Entrez dans votre appel et commencez par votre caractère. J'entre dans mon appel et je commence par mon caractère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez vous consacrer au Seigneur ? Père, je prie et je demande, Seigneur. Je demande que tu touches les cœurs ce matin. Je demande que s'il n'y a pas eu encore d'acte fondateur comme l'appel que tu donnes à Jérémie, je prie que tes enfants entendent ta voix, que tu les as appelés, que tu les connaissais, que tu les établisses maintenant pour devenir des disciples et faire des nations des disciples dans ce monde. Je prie aussi pour qu'on puisse commencer à travailler sur notre propre cœur, notre propre vie, et qu'on apprenne à marcher comme toi tu as marché, Seigneur, et aussi en suivant les exemples de ces hommes, en marchant dans l'intégrité. Je crois que tu testes notre intégrité. Je crois que tu veux tester encore et montrer et travailler nos motivations. Père, je te prie ce matin et je dépose cela à tes pieds, que mes motivations soient pour le service de mon Dieu, pour la gloire de mon Dieu et pour le bien de l'Église. Que ce soit pour les autres et pas pour moi. J'enlève de mon cœur ce matin toute volonté de vouloir me glorifier à travers ce que je suis, à travers ce que je fais, mais tout pour ta gloire, Seigneur, et la gloire de ton nom et le bien de ton corps. Je prie pour que tu nous aides à marcher dans l'obéissance. Je prie pour que tu nous aides à marcher en nouveauté de vie à partir de ce jour et qu'on se consacre pleinement à t'obéir, t'obéir et t'obéir, et pas simplement uniquement quand on comprend ou on sait où tu veux nous amener, mais juste te faire confiance dans l'obéissance. Et je te remercie au nom de Jésus.